Hey, avant de démarrer ce nouvel épisode, il faut que je vous présente ma nouvelle application Sport Science Test. Saviez-vous que pour mesurer la puissance, les équations que nous utilisons obtiennent 2% d'écart de précision avec des plateformes de force ? Saviez-vous que l'algorithme de Sport Science Test permettait simplement en filmant le mouvement de savoir quels muscles étirer ou renforcer pour l'optimiser ? Que vous pouviez tester l'endurance de dizaines de joueurs à la fois sans jamais vous tromper ? Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que sait faire Sport Science Test pour seulement 99€ par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval, nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois pour la seconde fois Thibaut Soubera. Thibaut, merci de venir, c'est cool.
Avec plaisir, comme toujours, de venir à tes côtés pour partager un bon moment de discussion.
Bon, alors pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'avant, déjà je vous engage à le voir parce que c'est un bel épisode sur la prépa physique pour les enfants. Donc regardez ce premier module-là. Thibaut est spécialiste justement de l'entraînement des enfants. Il est entraîneur de gym et préparateur physique. Donc cette double casquette lui donne une lecture assez intéressante sur le sujet. Et aujourd'hui, il vient parler de la différence entre les filles et les garçons, parce qu'on a toujours tendance à coacher, alors quels que soient les âges, mais à plus forte raison chez les enfants, les filles comme les garçons, bien dans cet ordre-là d'ailleurs, alors que des différences existent, elles sont nombreuses.
Ah ouais, elles sont nombreuses, c'est un sujet qui est très intéressant et dans lequel je me sens très concerné, comme tu as pu le dire, puisque moi j'ai la chance de pouvoir entraîner, parce que j'estime que c'est une chance de pouvoir entraîner et des filles et des garçons. Alors différence, bien entendu, il y en a beaucoup sur le plan physique, sur le plan psychologique, tout l'aspect mental. C'est là où finalement on retrouvera peut-être le plus de connexion. Et après sur les aspects physiques, sur les aspects vraiment même sur le plan anatomique, hein, il va y avoir des différences. Donc il va falloir arriver à gérer un petit peu tout ça. Donc c'est un sujet oui, qui est vraiment très intéressant et surtout qu'on va retrouver énormément en gym parce que la gym chez les filles et chez les garçons, on est sur des approches qui vont être différentes tant sur les périodes de croissance, hein, sur la notion... comme j'ai pu le dire dans le podcast précédent, pré-puberté, in-puberté et post-puberté. On ne sera pas sur les mêmes tranches. Donc voilà, c'est vrai que ce qui va être intéressant, c'est d'arriver à identifier déjà dans un premier temps quelles sont les différences qu'on va avoir entre les filles et les garçons, donc sur les aspects, comme je disais, physiques, sur les aspects psychologiques. Donc il va falloir arriver déjà dans un premier temps à identifier ça. Et puis, une fois que ça sera identifié, mettre un petit peu un plan de bataille qui va aller en adéquation avec les aspects, comme je viens de le dire, physiques et les aspects psychologiques.
Alors déjà, il y a un truc qui est important de rappeler, c'est qu'il y a plusieurs âges différents. On raisonne toujours sur l'âge chronologique. Or, il y a l'âge biologique qui compte énormément. Et chez les filles et les garçons, il n'y a pas le même rythme de développement. Vous le savez, si vous avez lu sur mon site web les différents articles qui s'y rapportent ou mon livre sur la prépa physique jeune joueur. J'en parle aussi largement dans le webinaire consacré, mais il y a clairement ce qu'on appelle l'âge biologique qui doit vraiment être pris en compte.
Et Thibaut nous en parlait, clairement, chez les filles et chez les garçons, c'est pas la même chose. Et puis il y a l'âge d'entraînement, par ailleurs. L'expérience dans l'entraînement, qui là aussi peut jouer des tours, parce que peut-être que certaines féminines peuvent rentrer dans certaines disciplines plus tard que les garçons, et puis à l'inverse, rentrer plus tôt dans d'autres disciplines que les garçons. Donc forcément, à la fin, cette espèce de mélange d'informations liées aux âges biologiques réels, aux âges chronologiques et aux âges d'entraînement sont à prendre en compte.
Exactement. Et puis en plus, moi, je suis dans une discipline qui est la gymnastique, donc un sport à maturité précoce, notamment chez les jeunes filles. Alors chez les garçons, c'est un petit peu différent. Le pic de maturité arrive de manière un petit peu plus tardive. Alors que chez les filles, bah, le niveau de pratique et de performance va être aux alentours des 16-17 ans, même parfois un petit peu avant. Donc c'est des choses qu'il va falloir arriver à gérer. D'où l'importance d'un gros volume d'entraînement. Si je reprends, pour extrapoler un petit peu mes propos, si je reprends les paroles d'un des plus mythiques entraîneurs russes qui disait de toute façon, pour arriver au niveau olympique, il faut compter environ 10 000 heures d'entraînement. Donc ça vous laisse imaginer un petit peu la quantité de travail que ça peut représenter. Et surtout, bah, cet aspect maturité précoce, 10 000 heures, sachant que le pic de maturité chez une jeune fille, c'est à 16 ans. Je vous laisse imaginer les débuts, à quel âge on doit commencer, et surtout le volume même que ça engendre derrière.
Surtout que ce repère de 10 000 heures, d'ailleurs, ça a été revalidé assez régulièrement par différentes études, notamment françaises, statistiques, hein, c'est 10 000 heures et 10 ans.
Exactement.
Ouais, donc en plus, donc il y a évidemment des disciplines, c'est très, très, très variable. Encore une fois, c'est jamais bon de faire des généralités dans la vie, mais il y a des disciplines où on peut avoir une maturité très rapide. Hein, en 2 ans, on peut faire les Jeux Olympiques. Non que l'opposition soit forcément plus faible, mais que le parcours de développement et de maturité est ce qu'il est, voilà, et qu'en 2 ans, on arrive à atteindre le plus haut niveau. Alors qu'à l'inverse, pour certaines, il faudra encore plus que 10 ans pour arriver à vraiment maturité. Mais néanmoins, ce repère 10 000 heures, 10 ans, si on le considère dans la gym, même en commençant à 3 ans, faut pas traîner quand même. Hein.
Oui, il faut pas traîner. Et puis d'autant plus que, là encore une fois, c'est ce qu'on avait pu dire dans notre podcast précédent, pardon, c'est qu'il y a cette notion de prendre en compte les différents paramètres, les paramètres familiaux, les paramètres scolaires, les paramètres, voilà, vraiment tous les paramètres qui vont être périphériques à l'entraînement. Et ben ça, c'est des choses qu'il va falloir gérer. Et là encore, on va avoir des différences entre les garçons et les filles. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, on va être sur des orientations qui vont être un petit peu différentes entre les filles et les garçons. Les filles vont être beaucoup plus malléables lorsqu'elles vont être jeunes, c'est-à-dire de l'âge de 6 à 10, 11, 12 ans. Elles vont être beaucoup plus flexibles, beaucoup plus tolérantes à l'intensité de l'entraînement et surtout vont respecter beaucoup plus le cadre qu'on va pouvoir leur fixer. Alors que les garçons, ça va être un petit peu inversé. Lorsqu'ils vont être jeunes, ils vont être un petit peu plus foufous, il va falloir un petit peu plus cadrer les choses, ça va être un petit peu plus compliqué à mettre des règles en œuvre. Et puis après, une fois qu'on va rentrer dans la période de puberté, là, chez les filles, ça va devenir un petit peu plus compliqué parce que les changements physiologiques, les changements anatomiques font que voilà, ça crée un petit peu des problématiques sur le plan... C'est un petit peu complexe.
Ça met un peu de bruit dans le...
Exactement. Alors que chez les garçons, ça va être différent. Justement, c'est une période qui va être un petit peu plus propice.
Ils prennent en confiance.
Exactement, ils prennent en confiance. Et puis, notamment, si on rejoint les paramètres physiques, c'est là où on va commencer à pouvoir développer un petit peu plus la force. Les changements physiques et physiologiques, là encore une fois, vont apporter aux garçons, alors que chez les filles, ça va être un petit peu plus délétère. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir gérer. Donc gérer l'approche psychologique va être différente, parce que, comme je le disais, bah, les filles, très malléables, très faciles très facile. J'exagère peut-être un petit peu, mais ça va être beaucoup plus facile.
Encore une fois, il est jamais
on fait
bon
pas de généralité.
Mais quand même, on constate
de manière globale, voilà, de manière globale, il y a une tendance à ce que les jeunes filles soient beaucoup plus flexibles et beaucoup plus malléables dans l'approche de l'entraînement.
Beaucoup alors plus appliquées.
Voilà, c'est plus... exactement ça. Alors que chez les garçons, ça va être un petit peu plus brouillon, ça va être un petit peu plus... Il va falloir mettre un cadre, il va falloir arriver à cadrer un petit peu tout ça. Donc ça c'est la première chose. Et puis après, comme on le disait tout à l'heure, bah, les pics de maturité ne vont pas être du tout les mêmes. Chez une jeune fille, ils vont être sur les alentours de 15-16 ans, alors que chez les garçons, on va être plutôt sur 20-21 ans. Et là, encore une fois, la différence entre les filles et les garçons, c'est que les filles, il va y avoir une période où elles vont être compétitives, qui va être relativement courte. Là, encore une fois, hein, je ne fais pas de généralité parce qu'il y a toujours des exceptions, mais une période qui va être plus courte, alors que chez les garçons, on va être sur une période qui va être beaucoup plus longue, parce qu'au contraire, plus on va prendre de l'âge, plus le niveau de force va augmenter, etc. Et là, plus ça va devenir intéressant en termes de compétitivité.
Ouais, gardons bien à l'esprit, hein, ce sont des tendances. Encore une fois, l'âge biologique et l'âge d'entraînement vont venir complètement perturber ça pour certains individus. Donc, on va observer ça à une échelle globale et puis avec des écarts types importants. Il faut aussi se rappeler que les repères sont là, pris dans une discipline donnée, qu'est la gym, qui est transférable dans beaucoup de sports en vrai, hein, mais pas forcément tous. Donc, peut-être que dans certains sports, les pics de performance sont un petit peu plus tardifs. Hein. D'ailleurs, il y a de plus en plus de sports à maturité de plus en plus tardive. Hein. Quand on était gamin, je me rappelle qu'un footballeur de 24 ans, ça y est, ça sentait le sapin.
Ouais, c'est exactement ça.
Ça commençait à être déjà une deuxième partie de carrière. Aujourd'hui, il y en a qui tirent jusqu'à 30-35 ans encore à très haut niveau, sans aucun problème. Et on voit même des pics de perf en termes de carrière entre 28 et 30 ans sur plein de sports professionnels. Et donc, on voit bien que l'évolution des méthodes d'entraînement, et justement, c'est ce qu'on appelle le LTDA, hein, c'est Long Term Development of Athletes, qui va permettre de rationaliser le développement et d'harmoniser le développement du joueur à très long terme, peut-être combiné aussi à l'évolution de la race humaine
dans l'ensemble de paramètres.
Et des méthodes de détection, etc. Fait qu'on a une longévité de plus en plus importante et probablement des maturités de performance et des pics de performance à l'échelle d'une vie un petit peu décalées dans le temps. Donc voilà, c'est juste pour recadrer un tout petit peu les repères qu'on vous donne là, mais ce sont des repères assez transverses.
Mais c'est vrai que je rejoins parfaitement ton propos parce que même sur la maturité chez les jeunes gymnastes, alors pour les générations avant les miennes, qui ont connu l'ancien bloc de l'Est, etc. On se rappelle de jeunes filles qui arrivaient à 14 ans, 14 ans et un mois, on avait les 14 ans pour pouvoir faire les Jeux Olympiques, bam, on y allait, quoi. Maintenant, on se retrouve avec des moyennes d'âge qui sont un an et demi, voire deux ans, supérieurs à ce qu'on pouvait retrouver il y a 15-20 ans.
Ouais, la gym a vieilli.
Donc on se rend compte que même la gymnastique a vieilli. La plupart du temps, avant, on avait des gyms qui faisaient deux cycles olympiques. C'était déjà deux cycles olympiques, c'était déjà beau. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gyms qui font 2, 3, des fois 4 cycles olympiques. Donc voilà, c'est quand même 16 ans à très haut niveau, même plus de 16 ans à très haut niveau. Donc on se rend compte en effet que, comme tu le disais, les méthodes d'entraînement, les méthodes de récupération, tout ce qui va être périphérique à l'entraînement, finalement ce qu'on appelle aujourd'hui les gains marginaux, tous ces gains marginaux ont été tellement optimisés que ça permet justement d'avoir un niveau de performance qui s'inscrit plus dans la longévité et qui en plus de ça, permet de décaler un petit peu ces pics de maturité. Parce que là, encore une fois, on est parti souvent du principe que la gym, il fallait être bon à 14-15 ans. Non, en fait, c'est la pratique qui a imposé un petit peu ça. Et les méthodologies d'entraînement, malheureusement, c'était malheureux parce que finalement, à partir de 16-17 ans, ben, on se rendait compte que ces jeunes filles, elles étaient plus compétitives, quoi. Elles étaient plus compétitives et que dans certains cas, je dis bien dans certains cas, là encore, il ne faut pas faire de généralité, mais il ne faut pas non plus se voiler la face, que bah, certains athlètes étaient brisés parce que broyés par le système, broyés par un niveau d'entraînement très intense, inadapté au système humain, finalement.
Hors généralité du système, encore une fois.
Exactement, c'est tout à fait ça. Oui.
Intéressant. Alors, du coup, comment t'abordes, toi, dans ton métier de tous les jours, cette différence entre les filles et les garçons?
Alors, c'est assez complexe parce qu'en plus de ça, j'entraîne les filles et les garçons en même temps. Ah ouais. Donc, il y a une complexité qui est...
Parce qu'une première règle, ça pourrait être simplement déjà de les...
Oui, de les séparer.
De les séparer une les partie, séparer. Pas forcément tout le temps, parce que c'est important socialement qu'ils se mélangent, mais ouais. Une partie du temps, quoi.
Alors, c'est intéressant. Moi, j'ai toujours tenu à ce qu'on s'entraîne tous en même temps, parce que déjà, ça crée une émulation. Et justement, ce que j'abordais tout à l'heure avec les différences qu'il peut y avoir sur les différentes... les différents âges, les différentes pensées du moment, entre guillemets, pour moi, c'est une force. C'est une force parce que, justement, peut-être que les filles, sur un plus jeune âge, vont, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, cadrer peut-être un petit peu plus les garçons, les emmener dans un moule, etc. Et à l'inverse, quand l'âge va augmenter, eh ben, les garçons vont apporter cet aspect un petit peu plus bagarreur, cet aspect un petit peu plus compétitif aux jeunes filles, qu'elles n'auront pas forcément. Là, encore une fois, on parle d'une globalité, on parle d'une tendance. Donc, pour moi, c'est intéressant qu'ils s'entraînent ensemble. Après, comment je fais ? Bah, c'est assez simple. Il y a un socle commun, finalement, un travail sur un socle commun, notamment sur toute la partie gainage, qui, finalement, est indissociable, que ce soit chez les filles, chez les garçons. La partie souplesse, on en a parlé notamment lors de notre précédent podcast. Donc ça, c'est un bloc déjà qui est relativement important. Et puis après, tout l'aspect acrobatique, l'aspect spécifique sur le travail d'alignement segmentaire, etc. Et l'aspect, comme je disais juste avant, acrobatique, voilà, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, on va être sur la même base et sur la même construction.
Commun.
Voilà,
okay.
Un socle commun et sur une construction qui va être similairement la même. Après, on va retrouver deux agrès qui vont être également en commun. Le saut, la table de saut et le sol, donc qui sont deux agrès communs entre les filles et les garçons. Donc là, encore une fois, on va être sur la même base de travail. Et puis après, bah, il va y avoir les spécificités un petit peu plus du travail orienté chez les garçons et du travail orienté chez les filles. Comme on l'a pu également l'évoquer dans notre podcast précédent, on en a parlé sur les qualités physiques. Les qualités physiques chez les garçons et chez les filles ne sont pas les mêmes, pour la simple et bonne raison, c'est que les garçons vont passer entre 75 et 80% du temps sur les membres supérieurs, alors que chez les filles, on va être sur les membres inférieurs. Donc là, c'est là où on va avoir des différences un petit peu en termes de registre de travail, des méthodologies qui vont être différentes.
Purement liées hein, à la pratique.
À la pratique, exactement. Ouais, c'est bon de le préciser parce que c'est pas forcément transversal aux autres activités. C'est un petit peu ce qui fait la particularité aussi de la gym, c'est justement cette notion assez dissociée des membres inférieurs et des membres supérieurs. Donc après, voilà, les méthodes de travail vont être différentes. Comme je dis, j'aime bien varier les outils de travail, donc l'utilisation de kettlebell, l'utilisation de cordes ondulatoires, l'utilisation de TRX, où là on va retrouver notamment les notions de grip, les notions de force de préhension, etc. Donc on utilise des outils qui vont être différents, mais dans des contextes qui vont être également différents, parce que l'approche n'est pas la même entre les filles et les garçons. Donc cette approche va être un petit peu différente. Après, chez les garçons, on va être sur un travail beaucoup plus sur un travail de force max, alors que chez les filles, on va être plus sur un travail d'endurance de force. Là, encore une fois, c'est très spécifique à chaque agré. Quand je parle de force maximum, ça va être notamment chez les garçons, par exemple, on va prendre l'exemple des anneaux, où là, il va falloir qu'on ait un indice de force relative qui soit extrêmement important. Et chez les filles, on va être plus sur de l'endurance de force parce qu'on va être sur une répétition de percussion, par exemple, au sol, donc de gestes pliométriques, etc. Et là, encore une fois, eh bien, il va falloir arriver à gérer parce qu'on sait que la pliométrie, notamment chez les jeunes enfants, chez les jeunes athlètes, même de manière globale, ça peut être extrêmement traumatisant. Donc, c'est des choses qu'il faut aussi arriver à bien gérer.
Ah, et créer des tensions tendineuses. On en parlait l'autre jour avec Jean-Benoît Morin aussi, que vous pouvez retrouver aussi dans ce podcast assez régulièrement. Là, il y a une petite parenthèse importante que je dois ouvrir pour les gens qui nous écoutent, parce que encore une fois, on prend un exemple qui est particulièrement pertinent, c'est celui de la gym, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, une spécialisation assez jeune, assez précoce, et une proportion de filles et de garçons intéressante. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un échantillon quand même assez homogène. En revanche, ce qu'on dit là n'est pas forcément transférable partout, hein, puisque, et en l'occurrence, les féminines sont plutôt armées hormonalement et physiquement pour justement plutôt des séries de force. En fait, on se rend compte que de plus en plus, on a beaucoup entraîné les filles en fitness, notamment sur des séries plutôt longues avec des charges modérées, en les entraînant comme des faibles femmes. en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. En réalité, on se rend compte de plus en plus que ce soit pour la minceur ou la performance, ou même leurs aspects psychocognitifs,
exactement,
ouais. Elles sont très répondeuses à des programmes de force.
Et donc peut-être même plus que, comme tu disais, peut-être plus que chez les masculins. Ouais.
Donc il faut finalement, pour le coup, ce n'est pas le moment de les entraîner comme des faibles femmes. Il faut les entraîner comme des fortes femmes, ce qu'elles sont. Et c'est là où on aura le plus de résultats, à plus forte raison que s'il y a un truc qu'elles partagent, c'est que l'immense majorité d'entre elles, encore une fois, il y a des exceptions, mais n'ont pas du tout envie de devenir des Golgoths.
Ouais, exactement. Ouais.
Et plus on est sur des programmes d'endurance de force prolongée avec de la tension longtemps et des récupérations stressées, et plus on va se retrouver avec un impact hypertrophique important. Donc, il faut le contenir, et donc ça s'applique dès le plus jeune âge. Travaillons plutôt hors champ spécifique, comme là, sur des paramètres neuromusculaires chez les jeunes filles, plus que ce qu'on imagine. Et finalement, c'est vrai pour les filles et les garçons, mais chez les filles encore plus.
Ouais, c'est je te rejoins complètement. Et là, depuis peu de temps, là, j'ai commencé un petit peu, moi, personnellement, à pratiquer un petit peu l'haltérophilie, donc sur des choses très basiques, sur des gestes très basiques, sur du squat, sur du deadlift, sur ce genre de choses. Excusez-moi les haltérophiles, d'aborder le sujet, parce que je me suis rendu compte que cette discipline et les outils dont dispose l'haltéro, ça peut être aussi très intéressant dans notre pratique de la gymnastique. Et j'essaye de mettre des choses en place qui vont dans ce sens, parce que je trouve qu'il y a un enrichissement justement au niveau des notions au niveau de la notion de force, au niveau de la notion d'explosivité, qui peut tout à fait être intéressant dans la pratique de la gym. Donc cette transversalité aussi entre les disciplines est intéressant. Aller chercher un petit peu dans d'autres disciplines, dans d'autres sports, ce qui peut être intéressant à notre propre pratique, s'ouvrir un petit peu aux autres disciplines.
Puis on sait que c'est particulièrement compatible, hein. On le voit notamment dans le CrossFit. C'est vrai que c'est un mélange qui marche assez bien, gym altéro. Et au niveau du traitement des qualités d'endurance, tu gères comment la différence fille-garçon ?
Alors, sur les qualités d'endurance, là encore une fois, on va être sur une notion assez simple, si on parle d'endurance de force notamment, comme on le disait précédemment, chez les garçons on va être beaucoup plus sur la ceinture scapulaire, chez les filles on va être beaucoup plus sur les membres inférieurs. Donc là on va être sur différentes approches. Moi pour ce qui va être de l'endurance, je travaille beaucoup sur du travail spécifique. Spécifique parce que on estime que la gym c'est avant tout un gros travail de répétition. Un gros travail de répétition, notamment pour l'acquisition du geste, et puis cette capacité à réitérer la performance de manière régulière, et surtout sur de la fatigue. Et notamment quand on va être capable de produire, si je prends l'exemple de la barre fixe chez les garçons, des barres asymétriques chez les filles, on va avoir un gros niveau d'intensité, et à la fin on va avoir une sortie. Et si on n'a pas un niveau d'endurance, que ça soit sur le plan physique, physiologique, mais également sur le plan mental, la réception, sur la barre fixe, on va arriver d'une hauteur quasiment 3,50 m, voire 4 m. Donc si on n'a pas un niveau de lucidité...
C'est le moment où il faut être ici
et
maintenant.
Exactement. Et il faut avoir un niveau de lucidité qui est extrême. On a pu le voir avec la blessure de Samir Aït Saïd, et pourtant qui était sur un agré extrêmement court, le saut de cheval, mais la moindre perte de lucidité peut entraîner des blessures extrêmement graves. Donc, moi, l'aspect endurance, je le prends plutôt dans ce sens-là, dans l'aspect endurance de force, mais dans l'aspect aussi endurance psychologique et lucidité sur la fin de l'exercice.
Mais tout est lié. Hein. Moi, l'endurance, évidemment, je pensais surtout aux qualités métaboliques, aux qualités d'endurance cardiovasculaire et respiratoire, mais tout est lié, en fait.
Oui, exactement.
Ce dont il faut se rappeler, c'est qu'on s'entraîne à performer. Et donc, il faut s'entraîner d'abord à s'entraîner.
Tout à fait, ça.
Et du coup, qui dit répétition, répétition, répétition et lucidité en fin de répétition, dit qu'à l'entraînement, il aura fallu en faire des millions de répétitions. Et donc, fatalement, il faut être capable de s'entraîner sur les filières d'entraînement, sur les cibles d'entraînement, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de compétition. Et du coup, dans la préparation physique, des filles comme des garçons pour le coup.
On va être sur le même registre et c'est très intéressant ce que tu évoques. C'est très souvent on a tendance à vouloir développer les qualités physiques, surtout par rapport à ce qu'on va pouvoir retrouver en compétition. Or, c'est une partie de l'équation. Et des fois, on va avoir tendance à trop se focaliser là-dessus, mais oublier qu'à un moment donné, si on veut performer le jour de la compétition, il y a en effet cette notion d'entraînement. Et si on veut être capable de s'entraîner correctement, il faut être aussi capable de s'entraîner longtemps. Et comme on a pu le dire précédemment, en gym, mais également dans nos sports, la notion de volume d'entraînement est extrêmement importante. Après, j'ai souvent pour habitude de dire que le volume de présence et le volume d'entraînement, c'est deux choses bien différentes.
Bien sûr.
Et cette notion de volume d'entraînement au sens propre du terme, en effet, si on n'a pas des qualités physiologiques et une capacité à pouvoir tenir la charge d'entraînement sur du long terme et sur des séances qui vont parfois durer 3 heures, 3 heures et demie, voire 4 heures dans les structures de haut niveau, et ben si on n'a pas cette capacité-là d'endurance au sens propre du terme, et ben ça peut être compliqué, ça peut être néfaste à la capacité à répéter. En effet.
Donc cette endurance, ça vient dans le socle commun aussi,
tout à fait,
filles-garçons.
Ouais. Et dans l'apprentissage, notamment au plus jeune âge.
Donc surtout une différenciation finalement filles-garçons neuromusculaire principalement.
Surtout, essentiellement. Ouais.
Sur les choix de force, au niveau de la vitesse
Alors sur les qualités de vitesse, on va être relativement sur les mêmes qualités. Là encore une fois, chez les filles, on va être plus sur des qualités de vitesse au niveau des membres inférieurs. Chez les garçons, on va avoir aussi cette notion de vitesse des membres inférieurs, notamment au saut et au sol. Et on va avoir aussi l'aspect combiné, où on va avoir du travail autant sur les membres inférieurs que sur les membres supérieurs, et où là, on va travailler sur la vitesse et essentiellement du tronc. Et c'est vrai que nous, c'est un gros, gros socle de travail, tout ce qui va être la partie gainage, la partie
gainage
abdos.
Exactement.
Et avec la capacité, justement, à passer d'une tension d'une courbe avant à une courbe arrière et à faire des changements extrêmement rapides dans des plans qui vont être différents. Parce que n'oublions pas que la pratique de la gymnastique, c'est un sport d'autopropulsion. Donc, le corps est vecteur de son propre mouvement, en fait. Donc ça va être extrêmement important à prendre en compte, notamment dans les notions de vitesse. Donc, entraînement de la force, qui veut dire entraînement de la force plus souplesse, on va arriver à des qualités de vitesse. La vitesse en tant que telle, je serais tenté de dire que sur la gym, on la développe pas au sens propre du terme. Donc c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à développer la qualité de vitesse, mais par contre, en développant, comme je disais, les qualités de coordination, les qualités de force, les qualités de souplesse, on va arriver à générer des niveaux de vitesse qui vont être relativement intéressants. Donc non, pas forcément un travail spécifique sur la vitesse. Je sais que j'ai souvent des discussions avec des gens qui font de l'athlétisme et qui nous disent « Ouais, de toute façon, vous, les gymnastes, vous ne savez pas courir. » Ils n'ont pas tout à fait tort parce qu'au sens propre du terme, au sens technique de course…
Bah vous courez jambes tendues en demi-pointe.
Voilà, donc on n'a pas forcément une belle technique de course. Donc voilà, c'est la notion de vitesse, encore une fois, elle a recontextualisé.
C'est un travail que je fais assez quotidiennement dans les formations ou même dans le travail d'échange et de vulgarisation avec mes athlètes ou avec mes élèves. La vitesse, c'est pas que de l'athlétisme. La vitesse, c'est pas que courir. C'est une expression de la vitesse, une utilisation des qualités musculaires. Et on finira d'ailleurs sur les qualités musculaires. Et il faut être capable de développer de la vitesse sans sprinter. Très clairement, quand la course n'est pas le moyen de locomotion principal de la discipline cible, alors...
Comment on exprime la vitesse ?
Alors, comment on exprime la vitesse ? Et ça passe du coup par de la qualité neuromusculaire, de la capacité des structures musculo-tendineuses à produire et restituer de l'énergie. C'est par exemple de la pliométrie, c'est par exemple de la force concentrique à très haute vitesse, le rate of force development, le fameux RF2 ou l'explosivité, qui là est particulièrement importante en gym, notamment parce qu'il n'y a d'autopropulsion
que dans la notion de vitesse
et dans la notion de qualité des contacts au sol et des appuis au sol. Et fatalement, j'imagine qu'il y a une approche assez précise
Donc il y a une notion de développement assez spécifique, en effet, au milieu de la gym. Et en effet, les qualités de vitesse, on va les retrouver non pas à tenir une vitesse pendant un certain temps, mais surtout à générer une vitesse très importante pour un geste précis, en effet, dans le cadre de l'autopropulsion du corps dans l'espace et dans les différents plans. Donc la notion de vitesse, elle va surtout s'exprimer par ça en gymnastique. Là, encore une fois, on est dans quelque chose de très contextuel. Mais
qui se retrouve dans beaucoup de sports.
Beaucoup de sports, oui. C'est ce que...
On génère des appuis très, très courts qui produisent des contractions très, très intenses qui vont générer un mouvement répété à fréquence variée.
Exactement, oui.
Finalement, c'est des choses qu'on retrouve dans beaucoup de sports.
C'est vrai qu'on retrouve ça dans beaucoup de sports et très souvent, on a trop tendance, comme tu le disais tout à l'heure, à ramener la vitesse à la notion d'athlétisme, à la notion de vélo, à la notion de la natation, où il y a cette notion de déplacement. Et c'est vrai que la vitesse, c'est pas forcément ça. Notamment, nous, en gym, on va travailler beaucoup sur la vitesse au niveau de l'angulation des membres supérieurs, des membres inférieurs, mais aussi au niveau abdominal, comme je le disais précédemment.
Donc,
d'un mouvement isolé, exactement.
On n'est pas que en vitesse cyclique, en fréquence gestuelle, etc.
Exactement. Ça peut être un instant court, une mise en action, une vitesse de contraction. En fait, c'est presque plutôt ça en gym. C'est un niveau de vitesse de contraction qui va justement générer comme je disais précédemment, cette autopropulsion et par la suite différents niveaux d'accélération, notamment sur toute la partie acrobatique, où là on va avoir des personnes qui vont être capables de générer un niveau de vitesse dans des rotations, que ça soit longitudinal ou transversal. Certains ont une capacité à accélérer très vite dans le transversal, d'autres beaucoup plus dans le longitudinal, et là encore une fois les notions de vitesse ne sont pas les mêmes, parce qu'on ne va pas être sur les mêmes vecteurs, les mêmes facteurs d'application de cette notion de vitesse.
Passionnant, Thibaut. Un grand merci à toi. Cet épisode touche à sa fin. Vous pouvez retrouver Thibaut Soubera sur Instagram. Il est très actif. Il partage beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram et les différents réseaux sociaux. On tourne ici à Transfert, mon partenaire digitalisation qui vous propose tout un tas de formations comme la PPRN ou de la formation continue en ligne avec l'e-campus, sur lequel vous pouvez même retrouver des épisodes inédits de nos podcasts. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes, de YouTube à Google Podcast en passant par Spotify ou Deezer. Et évidemment, sur mon site, vous pouvez retrouver tout un tas d'articles gratuits sur ces thématiques, hein, que ce soit sur les publics féminins, masculins ou sur les jeunes pratiquants, sur www.broussal-derval.com. Je vous remercie de votre fidélité et à très bientôt pour de nouveaux épisodes.
Merci à toi.
C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.